Chapitre 82. Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, 5h30. Quartier Robespierre, Cochenec-Péry, comme enfoncé dans une gorge noire. Des barres grises s'allongeaient jusqu'au bout de la nuit, encastrées les unes dans les autres, tels les murs d'un labyrinthe géant. On les présentait comme des quartiers animés de la ville. Ils n'étaient que des incubateurs de misère et de violence. La France aussi avait sa frontière mexicaine. Paris et ses beaux quartiers d'un côté, la couronne et ses dents gâtées de l'autre. À l'arrière du véhicule conduit par Pascal, Charcot collait sa tête à la vitre. Juste une paire d'heures de sommeil accrochées aux paupières. L'odeur de ses fils serrée contre lui, le souvenir de son face-à-face avec Nicolas. Retour au présent. Une pluie fine et grise donnait l'impression d'un rêve éveillé avec les habitations qui ondulaient dans la bruine, ce ciel noir et orange pollué par la lumière diaphane de la capitale, les rails du RER qui luisaient comme une lame de couteau dans le brouillard. Enfin, ils abordèrent le quartier endormi. Le seul moment de paix pour les habitants entre 3 et 7 heures du matin, avant que la misère réapparaisse. Charcot imaginait ces jeunes qui, la journée, brûlaient la gomme de leurs scooters sur les parkings, ces sentinelles, les choufs qui disparaissaient dans les halls des immeubles à la vue de la moindre voiture étrangère, et l'espoir qui battait des ailes pour aller se fracasser dans les cellules des commissariats de banlieue où l'on ne savait plus quoi faire de la délinquance. À l'heure qu'ils approchaient, le flic se rappelait aussi les explications de Peter Fourmentel, le journaliste au visage brûlé au sujet des vampires. Des jeunes en rupture avec la société, facilement influençables, côtoyant le démon et prêts à s'allier à une idéologie destructrice pour peu qu'elle soit contre ceux qui font les règles. Un terreau parfait pour les sectes en tout genre. Des destructeurs de l'humanité capable de faire rejaillir en l'homme ses pulsions les plus primitives et sanguinaires. Ces jeunes n'étaient que de la chair à canon, prêts à s'infliger des maladies, à se tuer eux-mêmes à petit feu avant que leur corps explose, et ils ne s'en rendaient même pas compte. 5h50. Les deux véhicules banalisés de la BRI et celui de l'équipe Mania se garèrent à une centaine de mètres de leur cible dans une rue adjacente. Mis en colonne, pas de course en silence, ombre enfoncée le long des façades. Il fallait taper vite, avec précision, sans bavure, avant que les esprits s'éveillent, déjà chauffés à blanc. La tour Péri était en vue. Ils pénétrèrent dans la bouche fétide du hall, la cage d'escalier tout en tag et odeur de cannabis incrustée jusqu'au cœur de la pierre. Concert muet de semelles sur les marches, feulement des tenues, crissement des casques lourds sur les crânes. Une scène que Charcot avait déjà vécue tant et tant de fois au cours de sa carrière, l'impression d'un film sans fin. 6e étage, porte au fond à gauche, un vrai trou à rats. Les hommes se positionnèrent. Le bélier portatif arracha en 2 coups la porte du bâti. Les molosses se déversèrent dans le studio comme une nuée de guêpes jaillit d'une ruche. Personne. Charcot, Magnin et Robillard investirent les lieux. Les draps chiffonnés traînaient dans un coin du salon qui faisait office de chambre. Un tas de cendres gisait au milieu du carrelage, des papiers brûlés. Il était évident que la souille avait déserté. Devant l'échec, les flics accusèrent le coup. Des portes voisines s'ouvraient déjà dans les couloirs. Pascal alla poser des questions aux habitants du palier, tandis que Charcot restait à l'intérieur. La souille avait-il été prévenue de leur arrivée? La fouille dura à peine 10 minutes. Plus rien à récolter ici. Il s'accroupit près du tas de papiers brûlés. S'amoncelait un bout de carnet carbonisé, des cartes prépayées de téléphone. Une feuille avait à moitié brûlé, mais il restait un morceau d'inscription noté à la va-vite au stylo. « Toir, nausée. Nausée. Une ville de la banlieue sud, pas loin de Longjumeau. Charcot embarqua le papier et sortit. Les tout premiers interrogatoires du voisinage ne donnèrent rien. Les gens ne savaient pas, personne ne savait jamais rien dans ces tours de toute façon. Peur des représailles. Les esprits s'échauffaient déjà, les voix portées dans les couloirs, provoquant d'autres ouvertures de portes, des cris d'enfants, des groupes qui commençaient à se former. Pour le moment, mieux valait ne pas traîner. Les flics quittèrent les lieux comme ils étaient arrivés, en coups de vent et les mains vides.